Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle semaine de Fidèle au poste. Toujours heureux de vous retrouver en ce début d'après-midi sur Radio Judaïka. Dans la demi-heure qui suit, nous rendrons un petit hommage à Jean-Louis Debré qui vient de nous quitter, mais nous évoquerons également un DVD passionnant, Où est Anne Frank ?
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance et quelques pas de deux et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Les marquises, Jacques Brel.
Le coin des archives.
Il y a quelques jours, nous apprenions la disparition de Jean-Louis Debré, homme politique, certes, mais aussi homme de lettres. Il avait notamment écrit sur son grand-père, rabbin en Alsace, et on a eu la chance de l'avoir au micro.
Moi, je suis de l'arrière-petit-fils du grand rabbin Simon Debré. Simon, c'est ce tour qui m'a fasciné, en 1972, choisi la République. Pourquoi ? Parce qu'il était reconnaissant à la République d'avoir donné aux Juifs un statut. Ça, c'est la première chose qui m'a fasciné chez lui, cette fidélité à la République. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé avec Simon, c'est le fait qu'il a, étant devenu grand rabbin de Neuilly, il a eu, ça se comprend dans l'époque, je trouve, un combat tout à fait juste, qui était le combat pour Dreyfus. Mais travaillant sur un prochain livre qui sortira sur ma famille, et notamment sur Jacques et sur Simon, Jacques étant le père de Simon, j'ai trouvé que, quand on regarde l'histoire, on trouve que les rabbins à l'époque n'ont pas beaucoup et suffisamment pris fait et cause pour Dreyfus. Sauf quelques rabbins. Pourquoi ? Il faut s'interroger. C'est qu'à l'époque, les rabbins étaient payés par l'État. Or, l'État était contre Dreyfus. Mais quelques rabbins étaient, eux, payés par le consistoire et libres. Et ce sont ces rabbins, une dizaine, qui, à l'époque, sont partis en combat contre le gouvernement. Et puis, Simon, grand rabbin Neuilly, au moment du développement de l'antisémitisme. Et en regardant tout ce qu'il a écrit, puisque je m'intéresse à lui depuis très longtemps, je trouvais qu'il n'était pas assez, alors je dis ça avec mes yeux d'aujourd'hui, assez violent, pas violent, le mot est pas bon, pugnace. Assez pugnace contre l'antisémitisme. C'est qu'il n'y a pas cru. Car pour lui, l'antisémitisme, c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui sont antisémites. Un personnage il est antisémite, mais ça n'a aucune importance. Et quand Drumont vient faire une conférence à Neuilly, j'ai retrouvé les notes que le grand rabbin a prononcées à la synagogue à ce moment-là. Ah oui, c'est pas très gentil pour Drumont, mais il aurait pu aller beaucoup plus fort, disant, mais n'y allez pas! Et en réalité, c'est dire, tout ça n'a aucune importance. Ce monsieur n'est rien, il restera rien. Bon. Mais quelques années plus tard, justement, en travaillant sur ce dictionnaire, j'arrive à Léon Blum. J'ai une affection particulière pour Blum, parce que dans le petit village de Westhofen, dont nous sommes originaires, il y a deux familles. Deux grandes familles, la famille Blum et la famille Debré. Et moi qui ai été président de l'Assemblée nationale, lorsque Blum, en 36, vient faire son discours d'investiture, se dresse un député contre lui, vient là, avec une violence antisémite impressionnante. Et je dis, c'est ça la République. Et donc, voilà, c'est l'itinéraire d'un certain nombre, dont Simon Debré, d'hommes et de femmes qui ont choisi la République et qui aiment la République parce qu'elle tolère toutes les religions et qu'elle respecte toutes les religions. C'est ça, la dernière petite souvenir. Le premier élu de la famille, c'est Jacques Debré. Jacques Debré, c'est le père de Simon. Il est juif. Nous sommes quelques années après la Révolution. Il se présente à Westhofen. Il est élu le premier juif. Il devient maire adjoint. Et la première décision qu'il prend, c'est-à-dire qu'il faut, en France, que toutes les religions aient un lieu de culte. Et à Westhofen, il y avait juste une église, à droite les catholiques, à gauche les protestants. Il dit ça, c'est pas correct. Et donc il fait prendre par le conseil municipal une décision qui dit que on va construire à Westhofen une église pour les catholiques, celle qui existe en tombale donnée aux protestants, et on va construire une synagogue. Et à chaque lieu de culte aura son école. Comment je le sais ? Juste avant de mourir, mon père m'a fait venir. Il allait mourir quelques mois après. Et il m'a dit deux choses. La première, tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre, donc tu n'en rajoutes pas trop. Quelle belle leçon. Deuxièmement, lorsque le maire de Weichthofen te demandera une aide, que ce maire soit à gauche, à droite, nulle part, ailleurs, peu importe, c'est le berceau de ta famille. Et donc tu lui donneras ce qu'il voudra. Donc j'ai trouvé des subventions pour le maire, pour mettre hors d'eau la synagogue, et puis il fallait refaire le clocher de l'église catholique. Donc on a fait tomber le clocher de l'église existante, et à l'intérieur, j'ai trouvé ce parchemin qui, des catholiques qui remercient le juif Simon de Bray pour avoir imposé à la communauté villageoise que chaque culte soit respecté, que chaque culte ait son lieu de culte, que chaque culte ait son école. Alors la chose rose, parce que la France est un pays magnifique, il y a eu une polémique énorme. Pourquoi ? Non pas parce qu'on construisait des lieux de culte, c'est parce que, pour que ça ne coûte rien à la communauté villageoise, il a fait couper les grands arbres de la forêt de Weichthofen, et ça, immédiatement, manifestation contre ça. C'est ça la France, c'est sa beauté. Donc voilà, moi, c'est ma vie, je suis reconnaissant à Simon et à Jacques d'avoir choisi la République, et j'ai compris pourquoi ils l'avaient choisi.
What would be
I Wish Stevie Wonder, sorti du formidable album Song in the Key of Life, pour lequel nous avons consacré d'ailleurs un petit sujet il y a quelque temps dans la quatrième dimension.
La recommandation du jour.
À l'occasion de sa sortie en DVD Blu-ray, je voudrais revenir sur Où est Anne Frank, le film d'Harry Folman. 13 ans après son film multi-récompensé Valse avec Bachir, le réalisateur israélien Harry Folman s'appuie sur un film d'animation pour évoquer une page importante de l'histoire avec son nouveau film Où est Anne Frank. Au cœur de son film, Harry Folman y place Kitty, l'amie imaginaire à qui l'adolescente adressait ses pages qu'elle écrivait dans son fameux journal et en fait l'héroïne de son dessin animé. Après s'être incarné à notre époque dans l'une des salles du musée installée dans la maison où la famille d'Anne Frank se cachait à Amsterdam, Kitty se lance à la fois dans une enquête sur le destin d'Anne, dont elle ignore tout, et en parallèle dans le sauvetage d'une famille de réfugiés africains. Le réalisateur Harry Folman.
I tried to make a not comparison.
J'ai essayé non pas de faire une comparaison, mais une combinaison. Prendre ce qu'il s'est passé avant comme un souvenir. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant d'enseigner la Shoah sans mentionner ce qu'il se passe dans le monde. Cela ne fait pas de sens et c'est l'héritage d'Otto Frank. La fondation de la famille d'Anne Frank souhaite que l'Holocauste ne soit pas un événement isolé, mais de prendre le journal d'Anne Frank et de l'utiliser dans les zones de conflit pour éduquer les enfants. Aujourd'hui dans le monde, un enfant sur cinq est menacé. Et Otto Frank a utilisé les droits des ventes du livre, les 17 millions d'exemplaires vendus, pour aider ses enfants.
And Otto Frank, this is what he donated, all his money that came from the royalties of the diary, were sold more than 70 million copies.
Qu'attends-tu, Anne? Ouvre tes cadeaux.
Oh, qu'il est beau!
Quand tu écris, à qui écris-tu?
À moi-même, évidemment.
Je préfère imaginer mon journal comme une jeune fille, une meilleure amie. Je l'appellerai Kitty.
Kitty. Je l'aime bien ce nom.
C'est au départ la fondation Anne Frank qui a contacté le réalisateur israélien Harry Folman pour la réalisation de ce film ambitieux. Et même si dans un premier temps, il a de son propre aveu refusé d'adapter l'inadaptable, son histoire familiale le rendait particulièrement légitime pour ce projet.
J'ai grandi dans une famille de survivants de l'Holocauste. C'est notre religion. À la maison, dès l'âge de 6-7 ans, avec ma sœur, j'ai entendu des histoires horribles, surtout de ma mère, qui est toujours en vie, grâce à Dieu. Ce n'est pas juste une histoire parmi d'autres. Quand ils racontent comment ils ont survécu, c'est toujours un miracle, une histoire incroyable. Ma mission, c'était de toucher une très large audience d'enfants. Toutes les phrases que j'ai écrites, toutes les prises que nous avons animées ont été longuement réfléchies en fonction de la réaction des enfants.
Qui est ce garçon? Un camarade de classe?
Oui. À qui parles-tu, Anne?
L'année dernière, tous les garçons de ma classe étaient amoureux de moi.
Tous les garçons?
C'était une si belle époque. Hélas, tout a changé.
Nous partons.
Ils ont déclaré que nous étions responsables de tous les maux du monde.
À partir de maintenant, cet appartement secret sera notre repère. Chaque fois que nous accueillons quelqu'un dans notre repère, nous sauvons probablement une vie. Tu pourrais faire vivre tous ces beaux personnages dans ta tête. Ils t'aideraient peut-être à combattre ta guerre.
Cette jeune demoiselle s'appelle Kitty et elle cherche son amie disparue, Anne Frank.
L'avez-vous vue?
Anne n'a pas écrit ce journal pour que vous fassiez d'elle un culte. Qui est important.
Allez, montez.
Fais tout ce que tu peux pour sauver ne serait-ce qu'une seule âme du malheur. Rien qu'une seule âme. Qu'est-ce que tu vois, Peter?
Je vois les forces alliées qui arrivent. Elles viennent nous libérer. Et toi?
Je vois des anges voler, Peter.
Où est Anne Frank porte aussi la volonté de réfléchir sur le travail de mémoire nécessaire à faire aujourd'hui. Parce que sous le mausolée fait de plaques, de rues, de musées, d'institutions qui portent son nom, où se trouve la jeune fille morte à 15 ans à Bergen-Belsen.
Le projet d'Harry Follman, clairement formulé dès les premiers plans de son film, est de reprendre contact directement avec l'adolescente, d'inscrire ce destin devenu légende dans le monde d'aujourd'hui et de guider celles et ceux qui ont l'âge d'Anne Frank au moment de sa mort vers la réalité d'une jeunesse brisée comme des centaines de milliers d'autres par l'extermination des Juifs d'Europe. Mi-film d'animation, mi-stop motion, le film est volontairement accessible à tous, parents et enfants. Et il est désormais disponible en Blu-ray et DVD.
La fumée vous dérange ? Désolé, je l'éteins. Je m'appelle Lenny Mayer. Salut. Et vous êtes ?
Max.
Pardon, Max ? Max. Max.
Max Cohen.
Cohen. Vous êtes juif ?
Oui.
C'est pas grave, moi aussi. Et vous êtes pratiquant ?
Non, la religion ne m'intéresse pas.
Vous connaissez la Kabbale ?
Non.
Notre code mystique.
Excusez-moi, mais je suis occupé.
D'accord, pardon. Non, je vous en parle parce qu'on vit un tournant capital de notre histoire. Une nouvelle ère.
We'll be right back.
Silly Love Song, Paul McCartney. Ainsi se termine notre émission du jour. Vous savez que vous pouvez la réécouter ainsi que toutes les émissions précédentes en allant sur le site de la radio, à l'onglet podcast. Je vous donne rendez-vous demain à 14h pour une demi-heure de culture et de pop culture dans tous ses états. À demain !